Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue donc dans RTL Midi et bonne année, prenez soin de vous, amour, santé, bonheur cette année. RTL Midi 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Plaisir de retrouver Amandine Bégaud comme tous les jours avec vous, c'est l'information jusqu'à 13h, bonne année.
Bonne année à vous, bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une comme un mauvais rêve qui hélas n'en finit jamais, rencontre avec une famille qui depuis ce matin réexpérimente télétravail et école à la maison. Dans ce journal également, le pass vaccinal à l'Assemblée. Et puis un témoignage rare, celui d'une jeune femme accusée d'avoir fourni des milliers de faux passes sanitaires.
Le masque FFP2, comme c'est le cas déjà en Italie, faut-il le généraliser? Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis Michel Houellebecq, c'est le livre événement de ce mois de janvier. Il sort vendredi, on en parlera vers 12h50.
Notre question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêt à utiliser systématiquement un masque FFP2? Vous dites non à 69%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Amandine.
Et belle année.
Belle année,
et pour
oui,
aujourd'hui, un grand classique.
Ah oui, c'est ça, les nuages au nord, le soleil au sud. Alors des nuages et de la pluie, parce que là, il y a un beau paquet de pluie qui arrive. Je le vois sur les images radar sur la Bretagne. Donc vous avez une course à faire là en Ile-de-France, faites-la maintenant, parce que d'ici 2 heures, on aura de la pluie. Ça va durer tout au long de l'après-midi, donc principalement au nord de la Loire, dans le nord-est. C'est là où ces pluies seront accompagnées également de vent assez fort, jusqu'à 70 km/h près de la Manche. Puis alors au sud de la Loire, en progressant vers le sud, eh bien, on retrouvera de plus en plus de soleil. Il sera même du grand ciel bleu, des Pyrénées aux Alpes, sur la Corse peut-être quelques nuages juste pour faire beau. Et tout cela avec des températures en revanche encore très douces. Hein. Au nord comme au sud, nous serons largement au-dessus des moyennes de saison. 11 à 13 degrés, pas moins dans la moitié nord, 13 à 17 dans le sud et même encore 20 degrés à Biarritz cet après-midi.
Effectivement, c'est pas mal, le froid qui sera de retour dès demain après-midi.
Exactement.
Vous nous direz ça à 13h, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Mais pour commencer donc direction Strasbourg avec cette histoire qui risque bien de devenir notre lot à tous, celle de ce couple qui se retrouve en télétravail avec un enfant à la maison et pour cause, l'enseignant de l'un de leurs fils est positif au Covid, Yannick Holland.
Oui, et du coup, ce matin, grasse matinée pour Simon en CM1, qui s'est tranquillement levé un peu avant 10h. Il a été prévenu par mail pendant les vacances qu'il n'aurait pas de rentrée.
Parce que mon prof a le Covid. Bah d'abord, je vais faire mes devoirs pour aujourd'hui et demain parce que je les avais pas fait. Et après, bah, je vais m'ennuyer. J'ai déjà lu toutes les BD de la maison, alors ça sert à rien. Maman, elle peut être là.
Effectivement, pour l'instant, Simon s'est installé sur la grande table du salon et ses parents doivent se partager le petit bureau dans la pièce d'à côté en télétravail. Gaëlle, la maman, s'en serait bien passée.
Ah, toujours très pratique. Dans l'appartement, moi, je vais utiliser le bureau de mon grand-fils, voilà, qui du coup est au collège. Donc ça, c'est nous fait quand même un petit espace pour pouvoir télétravailler, voilà. Après, on va se relayer avec le papa qui lui fera demain.
Malgré ce roulement, difficile de télétravailler dans ces conditions, d'autant que pour l'instant, il faut surtout s'occuper de Simon qui n'a pas d'exercice à faire. Le professeur malade n'a pas pu envoyer de programme.
Là, effectivement, on n'a pas eu de plan de travail. Donc on va faire les révisions, voilà, qu'on n'a pas faites pendant les vacances.
Bref, pour cette famille, tout le monde attend avec impatience la vraie rentrée des classes.
Merci à vous Yannick Holland en direct de Strasbourg pour RTL.
L'école, le protocole change aujourd'hui.
Les élèves de primaire dont l'un des camarades est testé positif au Covid pourront rester en classe mais à condition d'avoir 3 tests négatifs. Un PCR d'abord, puis 2 autotests, 2 et 4 jours plus tard à faire à la maison. Écoutez Arnaud Linquette, il est directeur de l'école La Mauricière dans le 12e arrondissement de Paris, établissement qui compte 10 classes et 220 élèves.
Je peux pas vous dire que je suis complètement serein, c'est évidemment compliqué. Cela étant, ici on agit avec pragmatisme. Côté enseignant, j'ai 0 absent ce matin. Côté élèves, on a une dizaine d'absents. Maintenant, voilà, on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent. Le nouveau protocole qui n'amène pas la fermeture de classe, c'est un temps administratif et d'organisation pour les familles compliqué. Les attestations sur le nord, vous voyez par exemple, nous, quartier éducation prioritaire, on a des familles qui ne peuvent pas se débrouiller avec ce type de document. Donc, je prends un document type comme j'ai déjà fait pour les attestations de fermeture de classe. Même si c'est lourd administrativement, c'est un temps qu'il faut prendre parce qu'on a des familles sinon qui sont démunies, quoi.
Le directeur de l'école La Mauricière dans le 12e arrondissement de Paris, au micro RTL de Marie Guerrier, Paris, où d'après le rectorat, 13% des enseignants sont absents aujourd'hui, 13 contre 9% lors d'une rentrée habituelle en janvier. Des perturbations aussi côté transport. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
En Ile-de-France, 11% du personnel est en arrêt maladie.
Absolument. Conducteurs de métro, de RER ou de bus, les arrêts maladie pour cause de Covid se sont multipliés ces derniers jours. Selon Ile-de-France Mobilité, les perturbations restent ce matin limitées et se concentrent notamment sur les réseaux de bus. Il faut parfois attendre un peu plus que d'habitude où certaines tournées sont légèrement adaptées. Fort heureusement, les nouvelles mesures qui concernent l'isolement vont donc changer les choses. Les cas contacts vaccinés vont pouvoir continuer à travailler, ce qui fera évidemment baisser la tension sur les effectifs.
Et l'Île-de-France, bien sûr, n'est pas la seule région concernée.
Oui, par exemple, en Moselle, 177 conducteurs de bus sont manquants ce matin, selon Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Là aussi, des adaptations des plans de transport sont mis en place. Autre région et autre conséquence, la baisse du nombre de trains en région Hauts-de-France et en Normandie. La SNCF anticipe une baisse de fréquentation de ces trains à cause de l'obligation du télétravail à partir de cette semaine.
Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL. J'ajoute que Jean Castex réunit cet après-midi les différents ministres concernés pour faire le point justement et éviter une paralysie des services publics. La réunion est prévue à 16h.
Au niveau national, le taux d'incidence dépasse désormais les 1500 cas pour 100 000 habitants.
Et c'est une première et il ne s'agit là que d'une moyenne. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Dans l'Essonne, par exemple, c'est deux fois plus.
Oui, plus de 3000 donc en Essonne, mais aussi dans le territoire de Belfort et autour de 2600 à Paris et dans les deux Savoies. Point commun de ces départements, une pénétration très forte du variant Omicron, très contagieux. Il est responsable de 90% des cas, par exemple, en Haute-Savoie. Alors si on regarde plus dans le sud du pays, on voit par exemple que dans les Bouches-du-Rhône, c'est toujours le variant Delta qui domine près de 70% des cas et l'incidence est moins élevée à 1600, ce qui est malgré tout beaucoup. En revanche, dans cette région PACA, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs augmente plus fort qu'en Île-de-France. En deux semaines, plus 42% contre plus 30% en région parisienne. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le taux d'occupation des services de réanimation est actuellement de 108%, des chiffres qui s'expliquent par le caractère plus dangereux du variant Delta et par un taux de vaccination moins élevé, d'où cet appel à se vacciner lancé ce matin par 500 médecins des hôpitaux marseillais.
Merci à vous Sophie Jousselin pour ces explications. C'est dans ce contexte que les députés débutent aujourd'hui l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal, coup d'envoi tout à l'heure à 15h et les débats s'annoncent agités, Thomas Després.
Oui, comme si la campagne présidentielle s'invitait à l'Assemblée, là où les joutes politiques se faisaient plutôt rare ces derniers mois, signe que le sanitaire vient tout bouleverser. Au total, les députés ont déposé plus de 700 amendements sur ce texte, avec principalement des amendements des Républicains et de la France Insoumise. Point commun de ces deux groupes, ils proposent tout simplement de supprimer le pass vaccinal. Cet amendement a vraiment peu de chances de passer, donc comme en commission, les Républicains réclameront de limiter le champ d'application de cette mesure, notamment qu'il ne soit pas appliqué aux mineurs, seulement pour les plus de 18 ans. Le groupe communiste, lui, votera contre l'ensemble du texte.
Ce n'est pas le meilleur chemin pour convaincre tous les Français de se faire vacciner. Le plus efficace, c'est d'aller à la rencontre de chaque personne qui n'a pas encore fait son vaccin. Ce ne sont pas des complotistes, ce sont des gens qui sont, pour une part d'entre eux, éloigné des soins.
Fabien Roussel, un candidat à l'élection présidentielle, et puis a noté également un amendement du gouvernement sur son propre texte. En commission, les députés avaient décidé de rendre les jauges proportionnelles pour les grands événements. Plus logique, disent-ils, le gouvernement, lui, préfère les limiter à 2000 en intérieur, 5000 en extérieur, quelle que soit la taille de la salle, ce qui promet un long débat jusqu'au bout de la nuit.
Merci à vous Thomas Després du service politique de RTL. J'ajoute que Bruno Le Maire recevait lui ce matin les différents représentants des secteurs frappés par cette épidémie, les restaurateurs notamment qui s'inquiètent avec le télétravail. Le ministre de l'économie annonce des dispositifs de soutien renforcé. Et Thomas le disait, ce débat à l'Assemblée est d'autant plus délicat qu'on est à 100 jours désormais de la présidentielle. Valérie Pécresse était ce matin l'invitée du petit déjeuner de campagne sur RTL. La candidate des Républicains est notamment revenue sur l'épisode du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe.
Il y a la ligne d'Emmanuel Macron qui dit « je préside l'Europe ». Donc voilà, l'Europe c'est mon horizon. Et j'en oublie de mettre le drapeau français. Moi ce que j'ai dit, c'est que les deux se conjuguent. Parce que moi je suis patriote et européenne. Et je veux une France forte dans une Europe puissante. Mmh. Moi, je crois, au fond, si vous me poussez vraiment dans mes retranchements, je crois qu'Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France. avec l'histoire de France. Il est allé dire en Algérie que nous avions commis des crimes contre l'humanité. Il est allé dans un média anglo-saxon dire qu'il voulait déconstruire l'histoire de France. Et aujourd'hui, cette histoire de drapeau. Alors voilà, c'est plutôt comme ça que je le dirais. Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France.
Valérie Pécresse sur RTL ce matin.
Elle est accusée d'avoir émis plusieurs milliers de faux passes.
Une jeune femme de 23 ans, interpellée il y a un mois près de Lyon, doit être présentée aujourd'hui à un juge d'instruction. Sally, c'est son prénom, que nos confrères d'M6 ont pu rencontrer.
J'ai pu voir une vidéo où on explique comment ça marche. Je me suis rendue sur la plateforme Vaccin Covid. J'ai trouvé des identifiants de médecins. J'ai réussi à rentrer. Il n'y a aucune sécurité. J'ai juste à rentrer son numéro qui se trouve sur l'ordre des médecins. C'est un numéro qu'ils ont tous. Et après, le médecin décide ou non de me faire accéder sur la plateforme. Et en général, les médecins acceptent. Pourquoi, je ne sais pas. Et après, le patient reçoit directement un mail d'Amélie avec son QR code. Au début, ça a commencé parce que déjà, oui, je voulais pas me faire vacciner, je suis contre. Et après, c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait se faire vite de l'argent avec ça. J'ai vite été appâtée par l'argent. C'est devenu comme une drogue, en fait. J'ai ma part de responsabilité, oui, mais je suis pas la seule. C'était trop simple, en fait. C'était vraiment trop simple. Et les autorités sanitaires ont leur part de responsabilité aussi.
Témoignage assez édifiant, hein, recueilli par nos confrères d'M6, de Sally, donc, accusée d'avoir émis plusieurs milliers de faux passes. Elle comparaît cet après-midi devant un juge d'instruction. Un Covid qui n'épargne pas le monde du sport. Le PSG affronte ce soir Vannes en Coupe de France. Ce sera sans Lionel Messi, qui a été testé positif en Argentine. Positif également Richard Gasquet, le tennisman français, a été placé 7 jours à l'isolement à Melbourne, où il devait disputer un tournoi. Gaël Monfils, lui, en revanche, jouera bien celui d'Adélaïde, toujours en Australie.
En fait, c'est stressant. Là, quand tu fais le test, quoi, tu vois, je te cache pas que j'attends demain matin de me réveiller, d'avoir le truc, d'espérer que d'être négatif. Et au moins, je souffre. Finalement, de se faire tester, c'est important, mais c'est horrible parce que ça te met le stress de. On peut t'enfermer 10 jours, quoi. Donc, c'est dur parce que tu sens rien. Richard, je crois qu'il était asymptomatique. Il est bien. Ce qui est dur, je te cache pas, c'est que tu vois, on a tous bien bossé. Je me sens bien, je me sens pas malade. Tu vois, je suis vacciné, je fais attention, j'ai le masque, j'ai tout. Tu vois, et demain, on peut te dire, voilà, merci, au revoir. Et en plus, ça te fout en l'air pratiquement tout ton début d'année, quoi. Donc, ouais, se faire tester, c'est stressant, entre guillemets, tu vois. T'as ce petit stress, tu vois, en espérant que tu sois négatif pour X raisons, quoi.
Gaël Monfils au micro RTL d'Isabelle Langer.
Et on garde les bonnes habitudes en 2022 après votre journal. Deux débats tous les jours. Le premier dans quelques secondes. Faut-il systématiser, généraliser le port du masque FFP2 comme c'est le cas en Italie. À tout de suite.
RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
On voit bien, certains pays y vont très rapidement, la nécessité de recourir de plus en plus au FFP2. On va y venir, j'en prends le pari.
C'était hier sur RTL, Éric Ciotti réclamait la généralisation des masques FFP2 pour faire face aux variants Omicron. Alors, est-ce la solution? Et puis, est-ce possible? Recommandé, recommandable? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Hélène Rossineau.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin de santé publique, je le rappelle. Un mot d'abord peut-être sur ces FFP2 pour que nos auditeurs voient bien de quoi on parle. Ce sont ces masques canards. Alors, Pascal me regarde, l'air de dire, bon, ça y est, tout le monde sait ce que c'est maintenant. On est bien d'accord, en tout cas, docteur, ils protègent beaucoup mieux, beaucoup plus que les autres.
Oui, alors en fait, les FFP2 sont très différents des chirurgicaux. Les chirurgicaux sont faits pour qu'on protège les autres en gardant nos sécrétions pour nous, alors que les FFP2 sont faits pour nous protéger, nous, des sécrétions des autres, globalement.
Et par exemple, si on a un malade et un non-malade face à face et que tous les deux portent un FFP2, les risques de contamination sont quasiment nuls.
Quasiment nuls, c'est un tout petit peu exagéré, mais en tout cas, ils sont très faibles.
Comment on arrive en tout cas à avoir des statistiques sur l'efficacité d'un masque ou d'un autre ?
Ça se teste en laboratoire, c'est plutôt de l'ingénierie que de la médecine, ça. Ça se teste en laboratoire sur la filtration vraiment des particules en fonction de la taille des particules. On connaît la taille des virus, donc on regarde vraiment les niveaux de filtration masque par masque. Sachant après que quand on regarde la grosse différence aussi entre les chirurgicaux et les FFP2, c'est que les FFP2, s'ils sont bien portés, ils sont vraiment plaqués contre le visage. D'ailleurs, on voit les soignants qui les portent très longtemps. On a des marques. Sur le bord du visage, alors que les masques chirurgicaux, on a de l'air qui passe dans tous les sens. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup moins efficace.
Alors, ces FFP2, ils sont désormais obligatoires, par exemple en Italie, dans les transports publics, les cinémas, théâtres, cafés ou restaurants. C'est une bonne idée, ça, pour vous, médecins, d'après vous ?
Alors, pour moi, c'est une très bonne idée. Là, la seule problématique, c'est que ça coûte beaucoup plus cher qu'un masque chirurgical, un masque FFP2. Mais ça a du sens. L'Allemagne, comme l'Autriche d'ailleurs, ils ont aussi les masques obligatoires, les FFP2, dans les transports en commun. Pour moi, les FFP2 ont toute leur place dans les lieux clos. Alors, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, si on devait faire une priorisation, parce que tout le monde n'aura pas forcément accès au FFP2 d'un coup. C'est vrai qu'en tout cas, les patients les plus vulnérables devraient avoir des FFP2. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce ne soit pas directement fourni par la Sécurité sociale.
Quel est le temps de la durée de vie d'un masque FFP2?
Alors, ça dépend des masques et ça dépend des marques. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut respecter ce qui est écrit sur la notice. Pas plus de 8 heures, ça c'est certain, avec un masque. Donc, mais là, vraiment, ça dépend des marques.
Donc, c'est plutôt, il en faudrait globalement sans doute 2 par jour.
Au moins un. Au moins un, voire 2, sachant encore une fois que si on décidait de les porter en extérieur, ce qui n'a pas un sens phénoménal, mais bon, aujourd'hui, le masque est de nouveau obligatoire en extérieur.
Pourquoi vous dites que ça n'a pas un sens phénoménal?
Parce que en extérieur, on se contamine beaucoup moins, surtout quand il y a pas beaucoup de monde dans les rues. Quand on est pas dans une zone de marché ou dans une zone de foule, ça garde du sens d'avoir un masque en extérieur. Mais à beaucoup d'endroits, il y a très peu de personnes dans les rues. Là, c'est un petit peu exagéré d'avoir un masque pour tout le monde à l'extérieur. Mais en tout cas, l'humidité joue aussi sur l'efficacité des masques. Donc, bon, on va dire que 1 à 2 masques par jour, ce serait déjà bien, sauf s'ils sont trempés.
Vous parliez du coup, docteur, le masque FFP2, c'est jusqu'à 6 fois plus cher qu'un masque chirurgical. Et vous disiez, la Sécu devrait par exemple les fournir pour les personnes les plus fragiles. Ça vous semble possible, ça?
Je trouve ça assez aberrant que ce soit pas le cas aujourd'hui. Pour tout le monde, les patients qui ont une ALD, par exemple, une maladie longue, les patients qui ont des cancers, les patients qu'on sait particulièrement vulnérables vis-à-vis du Covid, ça devrait pouvoir être pris en charge sur ordonnance du médecin.
Et pour les enseignants, par exemple, ça serait une solution, d'après vous, ou certains le demandent, en tout cas?
Ça serait tout à fait une solution. Les enseignants aujourd'hui sont mal protégés, malheureusement, par rapport, vis-à-vis des enfants et de la circulation virale qu'on voit dans les écoles. L'Italie a mis en place depuis quelques jours le masque FFP2 et il les donne aux enseignants. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Et l'excuse qui dit que on peut pas garder les masques FFP2 et enseigner en même temps, c'est complètement faux. Alors que ce soit obligatoire, c'est une autre question, plus politique, mais qu'en tout cas on puisse les fournir aux enseignants qui le souhaitent, moi je trouve que c'est quand même c'est une très bonne idée. Et de nombreux enseignants achètent eux-mêmes leur FFP2 et tiennent très bien des journées avec. D'ailleurs, les soignants qui portent des FFP2 la journée, les ont toute la journée. C'est pas forcément très agréable, ça n'empêche que on vit très bien avec.
Oui, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui parle tout le temps, ce qui n'est pas le cas forcément d'un chirurgien ou d'un médecin, d'avoir un masque FFP2 au moment où il parle pendant 8 heures, pas 8 heures d'ailleurs, ou 5 heures consécutives dans une journée. Mais est-ce qu'on peut enlever le masque et le remettre sans détériorer le masque?
Le FFP2?
Oui.
Ça dépend au bout de combien de temps on l'enlève. Si on l'enlève, par exemple,
on peut l'enlever au bout d'une heure parce qu'on est tout seul, on rentre dans son bureau. Vous voyez, en fait, est-ce qu'on peut faire des allers-retours toute la journée avec le FFP2? C'est un peu ça le sens de ma question.
C'est pas l'idéal, mais sincèrement, ça reste mieux que rien. Ça reste mieux que rien. Si vous avez besoin de manger au milieu de la journée, ce qui arrive quand même pour beaucoup d'humains, vous pouvez effectivement retirer votre masque. Et moi, ça me choque pas qu'on le garde. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Très sincèrement, on est encore très loin d'une utilisation pour tout le monde du FFP2. Donc, j'ai envie de dire,
personne
plus on
fragile,
le porte, mieux c'est.
Alors, personne fragile, vous avez dit, sans doute transport en commun.
Enseignants
et voilà. Soignants, parce qu'accessoirement, on oublie que beaucoup de soignants aujourd'hui ne sont pas équipés en FFP2.
Oui. Les soignants aujourd'hui encore ont du mal à en avoir.
Oui. Oui, oui.
C'est après presque 2 ans de crise sanitaire.
Parce qu'il n'y a pas que les hôpitaux, on a aussi les soignants en ville, on a toutes les personnes qui s'occupent par exemple des personnes âgées, on a les EHPAD. Donc, pour moi, ça aurait du sens que les soignants puissent être équipés.
Docteur Rossino, vous parliez tout à l'heure du masque en extérieur. On a parlé aussi des enfants. Je voulais juste sortir de ce FFP2 un instant. Depuis ce matin, ça y est, les enfants à partir de 6 ans doivent porter un masque en fait partout où c'est déjà le cas pour les autres, c'est-à-dire dans la rue, dans bien des régions, mais aussi dans les magasins, etc. En plus donc de l'école où ils étaient déjà obligés de les porter. Est-ce que ça vous semble logique, normal?
Ça me semble tout à fait normal, absolument pas choquant. Les enfants, il faut bien se rendre compte qu'ils réagissent en fonction de la façon dont leurs parents, en général, réagissent. Quand on regarde autour de nous, quand les parents ont du mal avec le masque, ou que politiquement, ils sont pas forcément d'accord avec la question du port du masque, les gamins ont du mal à porter le masque. Par contre, quand les parents expliquent calmement pourquoi il y a besoin du masque, en général, ça passe très bien. Il faut arrêter avec tout ce côté on va traumatiser les enfants, c'est complètement faux. Les enfants sont pas si fragiles que ça. Et mon sujet à l'origine de travail reste les proches aidants et les enfants qui s'occupent de leurs proches, qu'on appelle ça des jeunes aidants. Il y a beaucoup d'enfants qui s'occupent d'un proche malade, qui vivent avec un frère ou une sœur malade, avec un parent malade, etc., qui ont l'habitude de prendre soin de leurs proches. Ces enfants-là, ça fait des années qu'ils savent s'occuper de leurs proches et faire attention à eux. C'est prendre soin des autres, c'est quelque chose que les enfants savent très bien faire de manière générale. On a tendance, moi je trouve, à mettre nos problèmes d'adultes et notre politisation de plein de choses, mais vraiment d'adultes, sur les enfants. On ne devrait pas faire ça.
Bah, j'entends beaucoup de témoignages de psychologues cliniciennes qui reçoivent des enfants toute la journée et qui disent que ces enfants sont dans un état dépressif lamentable après la crise qu'ils subissent. Et ça, ce sont des personnels, en tout cas des témoignages de personnel de santé, oui, puisque les cliniciennes psychologues appartiennent à votre monde. Donc les témoignages sont aussi contradictoires, faut-il
le
rappeler.
C'est pas forcément le masque le seul responsable, mais
non,
c'est pas forcément le masque. C'est ce qu'on oublie, cette situation est épouvantable pour tout le monde. Ça fait 2 ans déjà maintenant qu'on est dans une pandémie. On aimerait tous en sortir. Et l'impact de la pandémie elle-même sur les gens et pas seulement sur les enfants est très important. Simplement, la question se pose aujourd'hui entre on n'a pas le choix, la pandémie est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que laisser les enfants sans protection alors que le virus circule extrêmement fort, c'est la solution? Parce que nous, en tant qu'adultes, on se dit que le masque, ça ne va pas être agréable pour eux. Alors qu'on n'a aucun recul sur ce virus, on ne sait pas combien en particulier Omicron donne de Covid long, par exemple. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc exposer ces enfants à un virus sur lequel on n'a pas de données, parce que nous, en tant qu'adultes, on est angoissés à l'idée que peut-être le masque, ce soit difficile pour eux, je ne pense pas que ce soit le plus rationnel aujourd'hui.
Eh bien, merci Madame Rossino, et c'est votre position. Je termine en disant que le masque FFP2, a priori, c'est 0,25 €. Le masque, 0,25 € le masque. Dans une seconde, nous allons parler de Houellebecq, anéantir. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je dis en général peu d'intérêt.
Alors ça, c'est de la fausse modestie.
Non, c'est de la vraie modestie.
Et vous êtes lassé de cette pression médiatique
Non, c'est juste que, pour la raison que j'ai dit, que je suis pas très content de, quand je me relis mes interviews, je trouve ça pas terrible. Je trouve que ce que je dis est pas très intéressant. Il y avait mieux à dire, quoi.
Il faut s'en tenir au livre.
Ouais.
C'était il y a 3 ans, pile à l'occasion de la sortie de Sérotonine. Michel Houellebecq évoquait au micro RTL de Bernard Lehu ses envies de cure médiatique, pari tenu, puisque ses apparitions sont désormais rares. Et pourtant, anéantir, son livre qui sort vendredi est déjà partout, impossible d'y échapper. Alors, quelle est la recette Houellebecq? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour à vous deux.
Un mot peut-être d'abord de la communication autour de ce nouveau livre. Pas d'interview, mais un plan marketing très 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 bien pensé.
Ben oui, parce qu'on savait que ce roman allait arriver, et puis le suspense était là, très présent. On a eu le 17 décembre, enfin, la révélation du titre, Anéantir. On voit à 600 journalistes, dont un certain Pascal Pro.
Oui, tous
hein,
les deux,
autres.
Vous l'avez lu. Il faut préciser ça aux éditeurs.
On voit donc à 600 journalistes juste avant Noël, avec interdiction d'en parler jusqu'au 30 décembre. Alors à partir du 30 décembre, donc la semaine dernière, ça a été la déferlante. Et il confirme donc qu'il ne donnera pas d'interview, avec une exception pourtant déjà. Mais ça, Houellebecq fait ce qu'il veut. Il a parlé à nos confrères du Monde. Ça pousse les journalistes à faire leur boulot, c'est-à-dire à lire vraiment ces 736 pages et à parler par eux-mêmes du livre sans recourir à des entretiens avec Michel Houellebecq. C'est une autre forme de marketing très sophistiquée. C'est le marketing de l'absence, de la frustration.
Et on cultive tout ça. Autour de la table, je suis la seule parmi nous trois à ne pas l'avoir lu. Pas l'avoir reçu non plus.
Vendredi, vous irez en librairie.
Vendredi, en librairie, exactement. Mais tout ce qu'on lit depuis quelques jours, très sincèrement, donne envie. C'est à la hauteur de ce que c'est réellement, Bernard.
Alors, je sens qu'on ne va pas être
mais
tout
oui,
à fait d'accord.
Mais oui, c'est pour ça aussi que c'est intéressant.
Bernard, le spécialiste. Non, allez-y, Bernard. Non. Allez-y.
Moi, alors, je trouve que cette fois-ci, on découvre quand même un Michel Houellebecq assez nouveau. Bien sûr, il y a toujours eu, au-delà de l'image de provocateur, d'écrivain un peu cynique, l'amour a toujours eu beaucoup de place, d'importance dans le livre. Et cette fois-ci, ben, il assume, il va jusqu'au bout avec les deux grands thèmes qui parcourent tout le livre, qui sont celui de la maladie et de l'accompagnement. De fin de vie, et il traite ça, j'ai trouvé, avec une humanité et une délicatesse extraordinaire. Et pour moi, c'est l'un des, même s'il y a des défauts, c'est l'un des meilleurs romans de Michel Houellebecq, et à coup sûr c'est le plus bouleversant, le plus touchant. Et pour l'instant, tous les retours de lecture, la plupart que j'ai autour de moi, vont dans ce sens là monsieur
c'est
Pro.
Non mais moi j'ai rien à dire, mais ce qui est suspect, j'ai lu toutes les critiques. C'est rare d'avoir une unanimité comme il y a sur Houellebecq. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le critique littéraire que vous êtes, et tous, finalement, hésiterait à
en dire du mal?
Bah oui, en dire du mal.
Non, alors ce matin même, sur son blog, Pierre Assouline, qui est donc l'un des membres de l'Académie Goncourt, journaliste littéraire aussi, éminent, dézingue, en quelque sorte, roman de Michel Houellebecq.
Ah, ça c'est intéressant, je n'ai pas lu. Mais qu'est-ce qu'il dit, par exemple, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé?
Pourquoi nous allons être anéantis par le roman de Michel Houellebecq? Alors je crois que je l'ai parcouru tout à l'heure rapidement, l'argument principal, c'est que du point de vue de la narration. Enfin voilà, il s'est ennuyé. Hein. Pour résumer en un seul mot, oui. Pierre Assouline s'est ennuyé en lisant le Michel Houellebecq. C'est son avis.
Les gens qui nous écoutent, 730 pages. Oui. On lit entre 20 et 30 pages à l'heure, hein, à peu près. Hein. Donc c'est quasiment 20 heures de lecture. C'est beaucoup 20 heures de lecture. Est-ce que vous pensez que ça peut rebuter ceux qui ne lisent pas forcément, facilement, des livres?
Ça peut impressionner, en effet, mais il y a beaucoup de gros livres. Le Ken Follett, dans un genre tout différent, qui est sorti là il y a deux ou trois mois, faisait plus de 800 pages. Et c'est l'un des énormes succès de l'automne. Je pense que quand même, alors c'est vrai qu'il faut peut-être marquer une nuance entre les lecteurs réguliers pour qui le format ne fait pas peur, et des lecteurs très occasionnels qui vont peut-être hésiter.
Mais tout le monde lit Houellebecq ou pas, ou c'est quelque chose d'intello, ou je sais pas, de parisien?
Alors c'était le cas dans un premier temps, et puis au fil des livres, il a élargi son audience, et il y a eu un moment, une bascule avec Soumission. Vous souvenez ce roman où il imaginait qu'un musulman allait être élu président de la République, et là il y a une telle polémique qui a accompagné ce livre, que son public s'est beaucoup élargi à ce moment-là.
Il y a beaucoup de digressions, c'est extrêmement intelligent. On a l'impression que c'est quelqu'un qui mène une conversation, qui parle au lecteur, et tous les thèmes de notre société, il les aborde, le sexe, le couple.
On est en 2027, hein, faut expliquer le contexte.
Mais je trouve que ce qui est formidable chez Houellebecq, c'est que tous les thèmes de notre société, le sexe, l'entreprise, la fin de vie, tout ça, il le met en roman.
Le terrorisme, voilà, d'autres l'élection que lui. Présidentielle de 2027.
Exactement. Donc ça, c'est peut-être que d'autres ont dit ce qu'il dit d'une certaine manière, mais lui en fait un roman. Donc il y a quelque chose, et c'est vrai que c'est un page-turner, comme on dit, c'est qu'on ne quitte pas ce qu'on lit. Un dernier mot, Bernard.
Ce qu'on a souvent dit, c'est le sismographe Michel Houellebecq parfait de notre époque.
Bah, vraiment merci, vraiment, mais vous nous avez donné envie de le lire avec une page cartonnée, pour, c'est un emballage particulier, vous verrez.
Comme une édition de luxe.
On est très en retard, mais ça fait partie des résolutions qu'on n'a pas prises, manifestement. Donc à partir de demain,
c'est de ma faute.
Il va falloir prendre des bonnes résolutions, d'être à l'heure. Et je salue Damien Béchiot.
Bonjour Pascal, donc
bonne année.
2023. On prendra celle-ci pour 2023.
La pause. RTL Midi.